Oui, je crois qu'il va venir.
Il a dit cela. L'autre jour, il a dit qu'il allait venir.
Celui qui va venir, Grégory Gadebois.
Sans doute, il parlera.
Il parlera. Il faut qu'il parle. Il doit parler.
Parler de la pièce qu'il joue.
C'est bien qu'il joue cette pièce.
Cette pièce, c'est du Marguerite Duras. C'est la langue de Duras.
Juste, efficace, qui ne se perd pas en fioritures.
Ça se scande du Duras.
C'est une chose que je crois. Il faut être un grand acteur pour jouer du Duras.
Il l'est. Conservatoire National, Comédie Française, un César en 2012, il l'est.
Et atypique, il l'est aussi atypique.
Il y a ça aussi.
Il me semble qu'il est une sorte d'ours et en même temps une sorte de nounours.
Subtil et inquiétant, c'est ça qu'il est.
Flic, il a voulu l'être.
En es-tu sûr ?
Flic, c'est étrange.
C'est vrai, on l'aurait plus imaginé menuisier, Gadebois.
Il y a un jeu de mots ?
Oui, c'est ce que je crois, qu'il y a un jeu de mots.
Oui, il y a un jeu de mots. Car Gadebois et le bois, c'est ça que le menuisier travaille.
J'aime ça les jeux de mots.
Il m'a beaucoup fait rire ce jeu de mots. Merci.
Elle est pénible, non ?
Charline, je ne pense pas qu'elle soit pénible.
Non, la langue de Duras.
Ah.
Si on doit faire toute l'émission comme ça, oui, elle est pénible, je le crois.
Au théâtre, elle est belle, je le sais, mais en radio...
Bon, allez, ça suffit, là, j'en peux plus. On prépare cette émission, on arrête de faire du Duras, on arrête les jeux de mots pour ébéniste et vous allez vous foutre au boulot, merde !
Elle ne l'aurait pas dit ça, pas comme ça.
Marguerite ne l'aurait pas dit ce mot, merde.
Ah ben merde quand même ! Bonjour, la France Inter.
Elle a dit ça, oui. Elle a dit bonjour, la France Inter.
Vous écoutez une émission de radio publique qui transforme votre redevance en petite blague. Et voici les trois informations qui ne savent toujours pas si elles doivent poursuivre la réforme ou faire leur carton. Les retraités sont en pétard, les futurs retraités aussi, donc ça fait du monde. Qui s'inquiète du nouveau régime de retraite par points ? Tout le monde à la même enseigne, que vous soyez chauffeur de bus ou danseur à l'opéra. C'est pourtant une belle perspective, la retraite.
Alors bientôt on se retrouvera tous les deux tout seuls avec des charentaises et après... la mort.
Une émission de télévision propose à ses candidats de disparaître 21 jours sans laisser de traces pendant qu'un groupe d'enquêteurs joue à les traquer. Et si jamais il y en a un qui s'est trop bien caché et qui ne revient jamais ? Oh là, ça va être la panique dans l'équipe de production.
Il faut le retrouver mort ou vite. Et vite, très vite.
Que sont nos amis devenus une fois que nous nous casons ? La relation à deux fait perdre, paraît-il, en moyenne, deux amis proches à chacun. Mais est-ce qu'on les retrouve après le divorce ?
Il va pas me faire de mal. Après tout, nous sommes mariés.
Considère ça comme un divorce.
J'espère que ce ne sera pas l'issue avec Alex Vizorek.
Ah, dis donc.
Nous ne sommes pas mariés pour ces raisons. Et nous nous entendons très bien.
J'ai pas envie d'être le gamin de divorce.
Est-ce que je peux vous présenter la belle équipe ?
Oui.
Il y a autour de la table, elle est aussi imprévisible que la politique sur son continent. Sirouki Attaouedraogo, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler ?
On va parler de la foire au vin. Là, ça va changer pour une fois.
Très bien.
Sujet qui maîtrise autour de la table.
À 17h30, apparemment, on pourrait être emmerdé par les moustiques jusqu'au mois de décembre en France. Eh bien, c'est rien à côté d'un autre fléau dans n'importe quelle rue de France. Vous pouvez être emmerdé par Guillaume Meurice jusqu'au mois de juin.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler technologie. Hein, ça faisait un petit moment, je vais vous parler innovation. Mais qu'est-ce que l'innovation ?
Pour moi, ce que j'appelle l'innovation, c'est la transformation des business models liée à la disruption qu'on peut voir aujourd'hui dans l'économie.
Bah, bien sûr, c'est exactement ce qui me semblait.
Voilà. Et bien sûr, et à 17h40, certains ont du mal à différencier leur droite et leur gauche. Lui, il ne fait pas bien la différence entre sa droite et son extrême droite. C'est vous, Pablo Mira. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline Rucata. Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de la réforme de l'audiovisuel public et des 40 propositions des députés en la matière. 40 propositions pour échouer au final. Tout ceci me rappelle déjà trop Alex en soirée. À tout à l'heure.
Il est bête.
Et voici celui qui va présider cette séance. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Grégory Gadebois.
Voilà. Ah bah oui, c'est vous.
C'était moi.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek.
Bienvenue Grégory Gadebois.
Merci.
Vous êtes en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin. On vous parle beaucoup de théâtre en ce moment, c'est la rentrée théâtrale. Avec La Musica deuxième de Marguerite Duras, avec Stéphane Gaillard, mise en scène de Jacques Weber. Théâtre de la Porte Saint-Martin qui adapte beaucoup les classiques d'ailleurs pour un théâtre privé, se distingue à ce niveau-là.
C'est le Petit Saint-Martin ici.
C'est le Petit Saint-Martin ici. Grégory Gadebois, c'est Alex Vizorek qui est allé vous voir.
J'étais là hier et j'ai eu envie du coup d'écrire comme j'avais entendu parler hier, et le sketch de début évidemment c'était un peu un hommage à Marguerite Duras. Il le dit Jacques Weber dans la note, il dit: j'aime lire, dire, entendre, écouter Marguerite Duras, c'est vraiment une langue particulière. Comment c'est de la jouer?
Ah, c'est vrai que c'est une langue particulière. Il faut comme toujours, qu'elle soit à soi, se l'approprier. Puis au début, c'est bizarre. Et à un moment, ça devient naturel.
Même pour le spectateur, les 10 premières minutes, on est dans quelque chose et puis on part avec vous et on ne l'entend plus. On n'entend plus qu'elle est différente.
Au début, c'est presque comme presque des Alexandres, hein, quoi. Mmh. Quelque chose c'est vraiment particulier, mais il faut faire un petit chemin et après, elle devient naturelle, ouais.
Parce qu'elle raconte quelque chose au fond de très quotidien, parce que là où les Alexandrins parlent des problèmes de Bérénice et de Phèdre, ici tout le monde peut se projeter dans ce couple qui s'est séparé il y a 3 ans, qui se retrouve dans une ville de province, dans un hall d'hôtel, pour le divorce.
Ils se sont retrouvés l'après-midi pour signer les papiers chez le notaire, et le soir ils se retrouvent par hasard, mais après c'est ça, chacun se raconte ce qu'il veut. Un peu exprès, mais chacun va là en se disant peut-être l'autre y est. Mmh. Et puis ils parlent pendant toute la nuit, quoi. Ils discutent.
C'est une pièce que Duras a réécrite en 65. Elle écrit la musica qui dure 45-50 minutes, qui est une pièce radiophonique. Mmh. Et puis elle se dit, 20 ans plus tard, en fait, ils n'avaient pas fini de tout se dire, ces gens-là. Alors j'ai fait le calcul, elle avait 50 ans quand elle a écrit la première version, 70 quand elle a écrit. Est-ce qu'on considère la séparation de la même manière, du coup? Parce que c'est ça qui est... Est-ce que vous vous sentez qu'il y a une différence entre l'ajout?
Non, moi j'ai pas senti de différence. Parfois on s'est posé la question de le moment où elle a changé, il y a une espèce de mini entracte, enfin il y a une pause. Elle met dans son texte une pause. Et c'est comme si ça, on pourrait jouer une et l'autre. C'est presque comme si ça repartait, mais plus profond, plus le trait est plus lourd. Enfin, c'est la seule différence que j'ai trouvée. Mais il y a pas de différence. Non, elle dit d'ailleurs, je sais plus où j'avais lu ça, qu'elle pourrait les faire parler beaucoup plus longtemps.
Ils sont au début quand ils se parlent. Si on n'a pas lu le pitch de la pièce, on ne sait pas vraiment que c'est un couple. Ils se vouvoient, ils sont très distants. Ils mettent, et peut-être c'est là la différence. Moi,
qu'elle pitchait pas, hein, Marguerite. Le problème de Marguerite, on lui a toujours dit, c'est que tu pitches pas, ma vieille.
Ce pitch, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, ce pitch. J'aurais dû le dire. mais non, ils mettent 45 minutes à se toucher et une heure à se tutoyer. J'ai noté ça. Et donc, c'est peut-être là l'évolution, la nuit aidant, et ils se livrent des choses.
Ouais, mais je pense que j'ai pas lu juste la première. Je pense qu'il y avait déjà ça dans la première. Mais peut-être que je dis n'importe quoi, je l'ai pas lu. Oui.
Non, j'allais dire là où on peut se projeter, je vous laisse terminer, mais là où on peut se projeter, c'est qu'il y en a un qui, quand même, ne s'est pas fait à la rupture et a peut-être envie de récupérer l'autre. Et c'est l'homme.
C'est-à-dire,
c'est-à-dire que l'homme, il
des
a...
Des fois, non, on comprend pas ce qu'il dit non plus.
C'est vrai.
Parce qu'il parle d'une autre pièce.
Non, ça n'est pas clair, n'hésitez pas.
Pardon.
Parce que l'auditeur aussi est perdu.
L'homme, il aimerait bien recommencer. Il n'est pas passé au-dessus de la séparation.
Ah ben, l'homme, il a toujours un truc de... Oui. C'est toujours un peu plus fier, un peu plus Et puis, moi, après, je peux parler que ce que lui... ressent.
Oui, bien sûr.
Après,
c'est de lui que je parlais.
C'est Stéphane,
hein,
qui pourrait répondre. Mais lui, il est très, oui, il est encore fou amoureux de cette femme. Il veut qu'une chose, c'est repartir avec elle, mais tout en sachant que c'est pas possible. Et c'est ça qui fait qu'ils sont dans un espèce de...
On sait pas si c'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire qu'elle lui fait comprendre, mais lui se livre au point qu'il lui explique qu'à un moment, il a hésité à la tuer, on peut le dire.
Oui.
Il le dit assez vite dans la pièce. Donc,
il dit très vite, oui.
Et c'est-à-dire que c'est très apaisé quand il dit. C'est là où Duras, c'est beau, hein. Il dit j'ai voulu te tuer.
En disant ça, vous ne déflorez pas le pitch
de
Marguerite.
Non, pas du tout.
Personne meurt à la fin.
Non. Mais c'est rigolo, c'est-à-dire que lui ne sait même plus pourquoi il a voulu le faire.
Non, je sais pas s'il sait plus pourquoi, ou s'il veut vraiment pas le dire, ou s'il a vraiment voulu la. Moi, j'ai mes petites réponses à moi, mais après, c'est assez ouvert. Ou s'il. Peut-être qu'il a pas vraiment voulu la tuer. Peut-être qu'il a, il y a tout ça, quoi.
Voilà, toutes les petites réponses à soi. Le public, il se les fait aussi, et c'est ça qui est très agréable. Et puis la langue de Duras, bien sûr.
Le couple selon Marguerite Duras, bien sûr. La musica deuxième, c'est donc Grégory Gadebois avec sur scène Stéphane Gaillard, et c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors faites attention parce que les horaires de représentation sont en alternance, une semaine sur deux. Mmh. Ne vous gaufrez pas.
Et faites aussi attention, Stéphane.
est une fille.
Oui.
Hein, son prénom.
Ça
aurait été possible.
Peut-être qu'à 90 ans, Marguerite Duras l'aurait écrit encore d'une autre manière.
Ça marcherait
c'est
de la même façon.
C'est pas le cas pour l'instant. Grégory Gadebois est avec nous jusqu'à 18h. À suivre, Pablo Mira et sa très bonne amie noire, Roquette Aouedraogo.
Alors c'est quoi que j'appelle? C'est la joie. C'est elle que les émois étincellent et s'entremêlent encore nos voix. À chaque fois je remets ça.
Rita Mitsouko, alors c'est quoi sur France Inter? C'est par Jupiter à 17h20 avec le comédien Grégory Gadebois qui nous accompagne, qui joue la Musica deuxième sur les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin, texte de Marguerite Duras avec Stéphane Gaillard. Et pour entourer notre invité.
Eh bien, les meilleurs, Roquette Aouedraogo, Guillaume Meurice et Pablo Mira par ordre d'apparition.
Et c'est le moment, Grégory Gadebois, nous faisons un petit point sur l'information. Voilà,
important,
attention, accrochez-vous.
Les gens sont demandeurs.
Général, vous voulez un journal?
Ah, volontiers, mademoiselle.
Le journal de presque 17h17.
Messieurs, ce n'est pas une blague, c'est de l'information.
Et on commence par les titres.
Le remaniement n'interviendra pas avant vendredi au plus tôt.
Emmanuel Macron se présentait comme le maître des horloges, faut croire qu'il a plus de piles.
Redouane Faïd a entamé une grève de la faim.
Oui, c'est ce qu'on appelle de la radicalisation express. Le mec est arrivé en prison et direct il fait ramadan alors que c'est même pas le moment.
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Oui, pas de grève pour les brèves, à part hier.
Eh oui, par hier. Et aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre et c'est la journée nationale des dyslexies.
Oui, des dyslexies qui seront sans doute les seuls à avoir remarqué qu'Arménie était l'anagramme de Romagné. Il n'y a pas de hasard.
Remaniement qui n'interviendra donc pas avant vendredi au plus tôt. L'exécutif explique que c'est en particulier parce que le casier judiciaire des futurs ministres doit être épluché au peigne fin.
Eh ouais, 10 jours pour vérifier le casier judiciaire. On va se retrouver avec Balkany à l'intérieur et Samina Seri à la culture.
D'après certaines informations, Emmanuel Macron et Édouard Philippe auraient déjà essuyé au moins 5 refus.
Oui, et ça je comprends pas. Je croyais qu'avec Macron, au bout de 3 refus successifs, on est obligé d'accepter le job. Donc là, il y a eu un souci.
Quant à Édouard Philippe, il a participé à une patrouille de la BAC, la Brigade Anticriminalité, dans le 19e arrondissement de Paris.
Et oui, c'est un peu ridicule. S'il voulait vraiment arrêter des criminels, il suffisait de faire interdire le glyphosate.
Oui. Fin du monde toujours, avec les essais nucléaires, car la Polynésie porte plainte contre la France pour crimes contre l'humanité.
Et oui, et c'est là qu'on voit la grande différence entre la Polynésie et Jacques Chirac. Eux, ils se souviennent des essais nucléaires.
Justice à présent, les prisons françaises seront floutées sur Google Maps d'ici décembre.
Et bah du coup, Redouane Faïd a résilié son abonnement à Free.
Redouane Faïd qui a entamé donc une grève de la faim. Il explique que c'est pour protester contre ses conditions de détention.
Mais oui. Vu le pedigree du bonhomme, je serais l'administration pénitentiaire, je me méfierais. Si ça se trouve, c'est juste pour devenir assez mince pour passer à travers les barreaux de la cellule qui fait régime.
International, en Floride, l'ouragan Michael arrive avec une puissance jamais vue.
Ah, refaites-le moi en disant Michael, ça va m'aider pour la blague qui va suivre.
Ah pardon, c'est ce que j'ai entendu Laetitia Gaillet qui disait
ben
Michael.
Ouais, mais ça va m'aider, vous allez voir pourquoi.
International, en Floride, l'ouragan Michael arrive avec une puissance jamais vue.
Alors qu'en France, le seul Michael qui peut toucher autant de retraités, c'est Franck Michael.
Franck Michael.
Ça ne marchait pas. C'est une leçon de blague pour moi.
J'ai voulu m'aligner dans la charte de la rédaction de France Inter, bien sûr.
Ils connaissent rien l'actu. Allez,
santé à présent, l'Agence nationale de sécurité sanitaire veut faire interdire, taisez-vous Guillaume. Donc, je reprends parce que
il
y a une mission en fait.
Donc, l'Agence nationale de sécurité sanitaire veut faire interdire en France les cabines de bronzage en raison des risques de cancer.
Oui, ça et la montée du populisme saletant pour les bronzés en France.
Mais c'est une bonne chose quand même qu'on interdise les cabines de bronzage.
Mais c'est con parce que c'était quand même le seul moyen de revenir bronzer de Bretagne.
Oui, c'est vrai. Santé, toujours, des chercheurs ont identifié un gène responsable de la dysfonction érectile.
Oui, un gène qui apparemment porte le nom de Pablo Mirus.
Allez,
Ça va, bien sûr, allez, des brèves.
Canada, il retrouve un ticket de loto gagnant dans la doublure de sa veste. Et ça, c'est un truc qui pourrait arriver à Aurore Berger, elle qui la retourne régulièrement.
C'est une spéciale Aurore Berger aujourd'hui, du matin au soir.
Ange parti, pas tout de suite.
Je vous en fais une dernière ou ça va?
Bah si, allez-y, ouais.
Seine-Saint-Denis, il braque une bijouterie et s'enfuit en fauteuil roulant. C'est terrible parce que ça pousse à faire la diminution des dons au Téléthon.
Et si vous aimez l'art et si vous aimez les brèves, Alex Vizorek joue dimanche au Creusot, c'est en Bourgogne-Franche-Comté.
Ils ont besoin de rire au Creusot.
Ouais, très bien.
Et je viendrai m'occuper de ça.
Bien sûr. En attendant, c'est Grégory Gadebois qui lui joue au théâtre de la Porte Saint-Martin, en espérant que vous puissiez aller dans toute la France après. Comment ça se passe? Est-ce qu'on sait déjà maintenant si vous allez jouer ailleurs qu'à Paris?
Ah, on le sait pas encore, mais certainement.
Très bien. Alors, Grégory Gadebois, on va aborder ce premier sujet avec tout le monde autour de la table. Vous aussi chez vous, n'hésitez pas à participer. Cette réforme des retraites est longue, comme un jour sans frites. Le gouvernement distille ses pistes, dont la retraite par points et non plus par trimestre. L'idée, c'est de simplifier le millefeuille. C'est vrai que c'est un millefeuille, des régimes, de 42 régimes de retraite. Vive la simplification, vive la retraite.
Je vais prendre ma retraite. Vous m'entendez? Ma retraite! Ma maison dans l'Aveyron! Ma pipe! Mon chien! Ma femme! Ma retraite, sacré bordel de nom de Dieu de merde! Ma retraite!
C'est Guy Marchand dans Le plus beau métier du monde, le film de Gérard Lozier. Alors voilà, la réforme des retraites, elle est interminable. Le gouvernement propose des pistes. Alors, c'est un peu technique, les retraites par trimestre, puis par point, on va y venir. Mais d'abord, est-ce que, Grégory Gadebois, vous pensez qu'aujourd'hui, la retraite, on doit y penser de plus en plus tôt? C'est-à-dire qu'avant, on y pensait, quand il restait peut-être 10 ans de carrière, etc. Puis là, avec l'instabilité du travail, des carrières, est-ce que vous, par exemple, vous êtes déjà dit « Oula, il faut que je prépare ma retraite ».
Ah non, non, non. Mais je pense qu'il faut y penser de plus en plus tôt. J'ai l'impression, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais j'ai l'impression que d'une manière générale, si on ne pense pas aux choses très tôt, elles passent sous le nez. Quoi. Oui. Ne serait-ce que le bac avec les études. Enfin, tout est, il faut prévoir tout très longtemps à l'avance, j'ai l'impression.
Ouais. C'est-à-dire qu'il faut se prendre en main, se faire confiance à soi plutôt que dans les autorités qui.
Oui, d'une manière générale, ouais. Non.
Mm-hmm. Vous êtes un mauvais exemple, du coup, parce que vous avez pas mal erré avant de choisir ce métier de comédien.
Oui. J'ai pas trop choisi, d'ailleurs. Ça, c'est un moment, c'était une glissade qui a fini là. Mais oui, genre, sinon, il aurait fallu penser à la retraite.
C'est vrai, vous avez fait plusieurs boulots avant, dont déménageur, oui. 2 ans, c'est ça ?
J'avais commencé une carrière dans le déménagement.
Il y a des bulletins de paye, il y a des choses comme ça qu'on pourrait vérifier ?
Non, pour faire. Non,
pour calculer les points, bah oui, ouais. Ouais, je pense à vous.
Oui, mais oui, mais ça, pas, ça, de... ça, j'ai été choqué parce qu'à partir d'un an, j'ai reçu des papiers pour la retraite un jour. Je ne vais pas passer 40, j'ai reçu un papier.
Ça vous a angoissé ?
Des points de retraite ? Oui. Ouais. J'ai dit, je suis trop jeune.
Oui, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, comme les retraites diminuent ou sont rabotées, on est obligé d'y penser de plus en plus tôt. Donc, on se dirige vers une retraite par points. C'est-à-dire qu'avant, on était sur base de votre plus gros salaire. Bientôt, maintenant, ce sera sur toute la carrière avec 1 euro égal à 1 point. C'est-à-dire que tout le monde a la même ancienne, que vous soyez chauffeur de bus ou danseur à l'opéra.
Moi qui travaillais chez Ardisson pendant 2 ans pour l'ancienne technique, c'est con.
C'est pour ça qu'on vous dit de démissionner en fait depuis longtemps.
Libérez mes oreilles.
Prends l'emploi.
Toutes ces simplifications administratives, Grégory Gadebois, dès qu'on dit simplification, on va simplifier avec telle réforme, les retraites, ceci, cela. Est-ce que vous sentez que le mot simplification, vous le sentez un peu comme une sorte de vaseline ? Oui, est-ce que vous le sentez ?
Vous le sentez la simplification ou pas là ?
Oui. Je trouve qu'on la sent bien.
Alors aujourd'hui, les retraités sont parfois obligés de faire un travail à côté, enfin à côté de leur retraite, c'est-à-dire du soutien scolaire.
Regardez Jacques Weber, il est obligé de mettre en scène la pièce.
Oui. C'est vrai. Alors
qu'il a 133 ans.
Hein. Oui, alors vous, c'est vrai que vous faites un métier dans lequel il n'y a peut-être jamais de retraite.
Je crois, moi j'espère, je me dis, un acteur ça joue des moins vieux, des plus vieux, puis à un moment, hop, ça disparaît.
Et si jamais vous ne pouviez plus jouer, est-ce que comme vous avez connu une vie de travailleur avant, je ne dis pas que les comédiens ne travaillent pas, hein, mais j'étais travailleur ou en entreprise.
C'est pas faux pour certains.
un vrai travail.
Est-ce que vous pourriez y revenir ? Est-ce que vous sentez plus les pieds sur terre, plus connecté à la réalité, parce que vous avez connu d'autres manières de travailler ?
Je crois plus connecté, je sais pas, mais y revenir, je crois pas. L'autre jour, j'ai essayé de porter un truc, je me suis fait mal au dos, c'est terminé. Ça.
Après, il existe d'autres professions, vous savez.
Oui. Je veux bien porter un scénario jusqu'à mon bureau pour le lire, c'est tout.
Parlant de film, on n'a pas cité, mais vous êtes dans Le Jeu, qui sort aussi. Ça sort demain ?
Non, ça sort le 17.
Ok.
Mercredi prochain.
Film avec Stéphane De Groot et Bérénice Bejo.
Mais alors, est-ce qu'on peut avoir le pitch ?
Pas le pitch. Par contre, Rukyata Ouédraogo, elle nous a fait un pitch au début de l'émission.
Ben oui.
Et c'était alléchant. Il s'agit de bouteilles.
Oui, de vin. De bon vin.
Très bien.
Alors, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé à la foire au vin l'autre jour. Comme je connais les prix des bouteilles qui m'intéressent, je suis allée avec mon tire-bouchon au supermarché. Bah, quand on fait les magasins de vêtements pour acheter, avant de les acheter, on essaie pour voir s'ils sont à la bonne taille, non ? Eh ben moi, je pense qu'à la foire au vin, on devrait aussi pouvoir goûter avant d'acheter. Mais je comprends, monsieur Leclerc, Carrefour, Auchan, ils ont tant à faire pour défendre notre pouvoir d'achat qu'ils ne peuvent pas penser à tout. Donc, j'étais tranquillement assise par terre à siphonner ma bouteille de Bonne Nuit Saint-Georges quand un vigile impoli est venu me perturber. Du coup, je suis allée me planquer dans le rayon bricolage pour faire sa fête à une bouteille de bouillie fumée tranquillement. Et c'est là que mon téléphone a sonné. Allô, c'est qui ? C'est ta mère. Allô, maman ? Comment ça va ? Ah bah moi ça va très bien, mais c'est ta sœur qui vit aux Pays-Bas qui m'inquiète. Je l'appelle pour lui fêter son anniversaire et elle me dit qu'elle est en prison et que c'est son propre mari qui l'a amenée là-bas. Quoi ? Ma sœur en prison ? Mais elle a vendu de la drogue ? Ah bah ça je ne sais pas ma fille, mais l'air est grave. Hein. Bon maman t'inquiète, je gère. La nouvelle m'a bouleversée, vendre de la drogue c'est mal, d'accord, mais amener sa propre femme en prison ? Mais c'est quelle morale ça ? Moi qui pensais que mon beau-frère était un chic type, bon, il m'a fallu déboucher une bouteille de Grand Manitou du salon 2013 pour me calmer un peu avant d'appeler ma sœur. Pendant que j'étais en train de composer son numéro, qui je vois ? Eh bien, le vigile qui court vers moi en criant et en faisant des grands gestes. Alors, je m'enfuis avec mes bouteilles, je sème le vigile au rayon couche-culotte et je retrouve refuge sous l'étalage des fruits et légumes. Allô, Fatih ? Dis-moi, c'est quoi cette histoire de hachiche-là ? Mais maman m'a dit que t'étais en prison à cause de la drogue.
Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des problèmes d'argent? Bah, tu sais très bien que si tu m'avais dit que tu avais besoin d'argent, je... Enfin, ça t'aurait fait du bien de parler, quoi. Mais de quoi tu me parles? Me demande ma sœur. Mais de la drogue. Mais j'en reviens pas. C'est ton mari lui-même qui t'a dénoncé et t'a amené en prison. Mais c'est quoi cette histoire de drogue, là? Et puis, pourquoi tu chuchotes comme ça? Parle plus fort, je ne t'entends pas. Mais je peux pas parler plus fort. Il y a le vigile qui me cherche. Mais quel vigile? Mais t'es bourré ou quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? T'as fait des conneries? Ah bah tu peux causer toi. C'est toi, c'est moi qui fais des conneries. Mais en attendant, c'est toi qui es en prison, hein, ma sœur. Mais non, je ne suis pas en prison. C'est un nouveau concept de tourisme pénitentiaire. Comme on n'a pas assez de prisonniers aux Pays-Bas, on a transformé nos prisons en hôtels. Et pour mon anniversaire, ton beau-frère m'a fait la surprise en me payant une nuit en prison. Ah, c'est trop fun, hein, ma sœur. On passe la nuit dans une cellule comme de vrais prisonniers. Tu devrais essayer. Moi? Et jamais. Une nuit en prison? Non, mais jamais de la vie. Mais ça ne tourne pas rond dans la tête de ton mari. On aura tout vu avec ces Hollandais, hein. Alors pendant que j'étais en train d'ouvrir ma 8e bouteille, parce que je n'étais pas là pour régler des problèmes familiaux, j'étais là aussi pour refaire ma cave, n'est-ce pas? Je me suis sentie puissamment tirée en arrière et je me suis retrouvée face à deux policiers. Ben alors, la petite dame, on a des problèmes d'alcool. Allez, suivez-nous, vous allez passer la nuit en cellule. Ben, allô Fatih, écoute, tu peux appeler maman pour lui dire que je passais la nuit en prison? Comme dit mon oncle, il ne faut pas chercher du sens partout. Certaines histoires n'ont pas de morale.
Roquette Ouedraogo, l'histoire des Pays-Bas, c'est vrai, non?
C'est vrai, j'ai lu ça quelque part. Oui, et ma sœur m'a dit, et c'est vrai, ma sœur, son mari, elle a ouvert vraiment... une nuit en prison.
C'est pas vrai?
Oui.
Ah, c'est pour de vrai?
Ah, ça m'a choquée. Mais oui, c'est pour de vrai.
Et
mais
bien, après, si nous
ce qui est bien, c'est qu'ils font travailler en fait, des étrangers qui viennent là. Mm-hmm. Donc l'argent sert, la nuit d'hôtel en fait, que tu payes, sert à reverser et à payer des formations à ces étrangers. Mm-hmm. Et je trouve ça formidable.
Mais elles vendent la drogue quand même.
Non. Oh, oui.
Merci, Roquiata, qui joue toujours son spectacle au Lucernaire. Je demande la route, c'est les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. Oh oui, dites donc, autour de cette table, toujours, tout le monde est sur scène. Et à bientôt, il y a Meurice à Biarritz, Grégory Gadebois, bien sûr, toujours au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Et vous, alors?
Pablo Mira à Trévise.
On vous attend, vous
Jardine, qu'est-ce que...
Moi, sur France Inter. Allez, hop.
Fixed in a vacant stare, a little laugh, a crooked smile. Don't lift a finger while I lay dying, bone dry. You drank all the blood, my heart is bone dry. Could give you more cause you took all of it, sha-la-la. Was a day when I did believe they are what you mean, dear sweet innocent me. How much it took for me to finally see, bone dry. You drank all the blood, my heart is bone dry. Could give you more cause you took all of it, sha-la-la. Drifting off, lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone dry, sha-la-la. You drank all the blood, my heart is bone dry, sha-la-la. Can't give you more cause you took all of it, sha-la-la. Bone dry. La la la, bon dry. You take all of it, sha la la.
Les Hills, c'est les. Alors c'est, ah, Bone Dry, bien sûr.
Vous auriez dû me demander.
Et pas Frank Michael.
Sûrement. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Bienvenue si vous nous rejoignez. Sachez que nous sommes en compagnie de Grégory Gadebois, qui joue un texte de Marguerite Duras sur scène, la Musica deuxième, ce qui veut dire que Marguerite Duras a remanié le texte. Duras était aussi dans le remaniement. Ça a pris 20 ans, donc ça remet les choses à leur place, effectivement. Et à côté de vous, Grégory Gadebois, avant de poursuivre notre conversation sur plusieurs thèmes, dont un qui relie à la pièce, il y a Guillaume Meurice.
Oui, oui, il va falloir s'y faire, hein, Pablo, je suis désolé. Je suis allé à l'événement Think Paris, organisé par IBM et qui avait pour thématique « Êtes-vous prêt à une nouvelle rencontre avec la technologie ?» Alors, je sais pas vous, Grégory, vous êtes prêt ou pas?
Moi, j'adore la technologie.
Ouais, mais je vous sens pas prêt. Non, moi, je vais vous dire, franchement, je pensais que j'étais prêt. Hein, dans ma tête, je me disais, c'est ok, j'ai fait les cours de techno au collège, j'ai fait une lampe de poche, j'avais eu 12, je me suis dit, s'il y a une nouvelle rencontre avec la technologie, je serai prêt. Eh ben non, j'étais pas prêt, j'étais clairement pas prêt. Parce que quand je suis arrivé, je vous jure, c'est vrai, il y a un mec sur scène qui était en train d'expliquer comment on peut réparer une machine à café connectée avec un smartphone. Et il était content, le gars était content, les gens autour applaudissaient et moi j'étais pas prêt à ça. J'étais pas prêt à me sentir aussi fier d'être un humain, quoi. Fier de mon espèce, quoi. Ni que sa race la limace, ni que sa mère le hamster, les plus malins c'est les humains. Et tous ensemble, on est fiers de quoi ?
De voir que c'est possible aujourd'hui avec cette nouvelle technologie, ça ouvre l'esprit.
Bah, il faut du réseau quand même. S'il n'y a pas de réseau,
c'est... Exactement. C'est le nerf de la guerre.
S'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de café.
Absolument.
Ouais, c'est un peu le problème. Ouais, c'est vrai que dans ce genre d'événement, sans Wi-Fi, les gens ont une espérance de vie de 12 minutes. Hein. C'est quand même des mecs, s'il y a une panne d'électricité, ils restent coincés dans les escalators. Mais n'oubliez pas quand même qu'on est fiers.
Là, on vient de voir comment on donne un meilleur service aux utilisateurs d'une machine à café pour qu'ils puissent avoir du café tout le temps parce que le temps de réparation de la machine est améliorée grâce à l'IoT.
Mais est-ce que c'est ça le progrès vraiment ?
Oui, je pense qu'effectivement, ça c'est du progrès. Par contre, sur quoi vous avez raison, c'est que je pense qu'il faut se challenger. Enfin, il ne faut pas juste...
Voilà, parce que là, moi j'avais une solution, c'est de prendre une casserole d'eau, du café soluble et faire un café. Et à mon avis, ça prenait moins longtemps.
Mais je pense aussi que...
Oui, j'ai challengé moi aussi.
Ouais, mais il faut.
Ah bah attends, moi dès qu'il faut challenger, je suis pas le dernier. Hein. Vous pouvez demander à Charline et Alex, dès qu'il faut challenger la machine à café au bureau, c'est pour Bibi.
Ouais,
dès qu'il faut benchmarker la photocopieuse, qui c'est qu'on appelle?
Bah,
c'est
Guillaume.
Moi. Bah voilà, et voilà, mais c'est bien, c'est le progrès et on vit mieux.
C'est vraiment, je trouve que tous les jours ça nous facilite la vie. Il y a pas mal d'innovations, il y a pas mal de choses autour de l'intelligence artificielle. Il y a des assistants virtuels, on ne parle plus de chatbots, c'est devenu des assistants virtuels parce qu'ils sont étouffés dans leur rôle.
Mais est-ce que ça pose pas un problème sur l'emploi ? Est-ce que ça supprime pas des emplois ?
Bah, je dirais que ça peut peut-être les faire évoluer.
Ça peut les faire évoluer vers le chômage.
Oui.
Je pense que ça peut nous aider, nous.
Voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est aider IBM à créer des emplois pour fabriquer des assistants virtuels qui supprimeront des emplois. C'est vrai qu'on est fiers d'être un humain, d'accord, mais les chroniques de Pablo, par exemple, qui sont faites par un robot depuis le début, on le voit, c'est pas un humain qui est en face de nous.
Que je rémunère, le robot.
Et alors, personne, voilà, dans l'espèce humaine a ce profil mi-Éric Brunet, mi-sudation. Ça n'existe pas. Et ben, je trouve quand même que c'est une belle réussite. Sauf qu'évidemment, il y a toujours des ronchons pour dire que comme les robots font le boulot à notre place, faudrait peut-être les taxer, faire un peu plus ruisseler.
Ça peut être une chose, oui.
Mais ça n'a pas l'air de vous convaincre.
De quoi ? La taxe ?
Ouais.
Bah, c'est pas moi qui les paie, hein. Je sais pas, faut peut-être voir un côté partenaire ce qu'ils en pensent par rapport à l'AI.
Oui, c'est pas fan, mais les partenaires non plus par rapport à l'AI, donc c'est l'Artificial Intelligence, hein, je rappelle. Alors l'artificiel, ça les dérange pas, sauf quand il s'agit du pognon. Là, ils veulent bien quand même qu'il y ait un tout petit peu de concret. Pourtant, des partenaires friqués, il y avait des banques qui bossent sur quoi ?
Toutes les offres open banking, notamment le cloud d'IBM, justement pour compléter nos solutions. Qui sont vraiment maintenant sur le SaaS, sur le BPO, donc tous nos grands comptes, du back-office au front-office, en passant par middle-office.
Voilà, là on est bon, je crois, au niveau de l'office. On a tout, back-office, front-office, middle-office. Je peux pas faire mieux, hein, pour vous. Alors, les banques, l'intelligence artificielle, ça les intéresse parce que désormais, les investissements se font à une vitesse démentielle. Ils appellent ça du trading haute fréquence, hein, c'est ça ?
C'est ça. Maintenant, en fait, de toute façon, on est dans une période de l'immédiat, donc tout doit être fait vraiment à l'instant T. Donc, du coup, on peut plus attendre. Donc,
là, on en est à la nanoseconde, quand même.
Ouais, bah, on va peut-être encore aller plus vite après, parce que là, on essaie, nous, sur notre offre, c'est aussi sur tout ce qui est disponibilité. On n'a pas le droit vraiment à l'erreur. C'est vraiment de l'instantané, quoi.
Oui, c'est vrai que parce que la nanoseconde, moi, je me faisais chier. Je trouvais ça vraiment trop lent. C'est quand même un milliardième de seconde, quoi. Entre deux nanosecondes, bah, qu'est-ce qu'on faisait ? Rien. Une sieste quantique, à la limite, mais bah, c'était relou. Voilà. Vivement le futur. D'ailleurs, l'avenir, parlons-en.
L'avenir nous dira de quoi il fait demain, mais bon, pour l'instant, on est vraiment dans une phase d'accélération, ça va très très vite. Si on ne suit pas nos concurrents, eux vont suivre aussi la tendance, donc du coup, on est obligé tous de suivre, on est dans le même bateau.
Est-ce qu'on n'est pas dans le même bateau qui coule ?
Non, on est dans le bateau qui va avancer vers le progrès.
Ouais, c'est ce que disait le gars du Titanic, c'est pour ça que je ne suis pas bien rassuré, parce que je vous rappelle que ce sont donc ces gens-là qui doivent développer l'intelligence artificielle, alors qu'on n'est pas bien sûr qu'eux-mêmes en soient équipés naturellement.
Guillaume Meurice, merci Guillaume.
Comme on dit cette phrase, l'avenir nous dira de quoi est fait demain.
Ah oui, et ça c'est beau.
Et ça c'est beau.
C'est du Francis Lalanne. Dans le texte, c'est assez proche.
Guillaume, que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr et avec à la réalisation Anne-Sophie Ladonne, à la technique Julien Dumont. Nous sommes avec Grégory Gadebois et restez focus sur le process Grégory car nous allons parler télé-réalité qui ne cesse de se réinventer pour le plus grand plaisir de la fin de la civilisation. Un jeu appelé Escape fait de ces candidats des fugitifs volontaires. Ils ont 21 jours pour disparaître complètement dans la nature. Là, une équipe d'enquêteurs est chargée de les traquer pour les débusquer. Et cette équipe, elle est composée notamment d'un ancien négociateur du RAID et d'un ancien capitaine de police. Une chasse à l'homme avec, bien sûr, une règle numéro 1. Poser 21 jours de RTT. C'est obligé, ça, déjà. Ouais.
C'est le générique de l'émission.
C'est Vianney. Eh oui. Voilà. Et où Michel ? Ben on ne sait pas, on l'a perdu depuis 21 jours, on ne sait pas où est Michel. Voilà, il a posé ses RTT, il est parti.
C'est rigolo comme concept.
Il a joué à Escape. Alors, Grégory Gadebois, est-ce que si vous y participiez, ce serait de quel côté ? Vous kifferiez d'être le fugitif ? Ou l'équipe d'enquêteurs qui doit les retrouver.
J'aimerais bien faire un de chaque.
Ah oui. Oh.
En fugitif et puis après une fois en traqueur. Si je dois en faire qu'un, peut-être en traqueur, ouais.
Ah ouais. Alors justement parce que avant de vous lancer dans la comédie, vous vouliez vous engager.
Vous étiez fugitif.
Non.
Rappelle. 17 que vous avez braqué.
Vous êtes bien connu à Douane Faïd.
Vous vouliez vous engager dans la carrière militaire ou dans la police.
Ouais, j'avais ces idées là. Ouais. La police.
Comment c'est possible d'avoir ces idées là.
Bah parce que
Grégory.
Mais oui, mais non, mais si, si, si.
Et pour les auditeurs qui nous écoutent, vous êtes venu avec un ton fa aujourd'hui.
Ouais. Mais ouais. Et j'ai fait le service militaire dans la police. Ah. Et si j'avais pas eu besoin de passer le concours, qui était compliqué pour moi le concours, c'était. Eh bien, si on me l'avait donné, je serais resté.
Voilà qui explique pourquoi ça vous amuserait d'être dans l'équipe d'enquêteurs pour ce programme. Et pourtant, vous dites souvent que vous étiez un peu retors à l'autorité, à l'école.
Ah oui, complètement.
Alors, comment est-ce qu'on concilie les deux ?
Eh bien, je sais pas. C'est mystérieux. Je supporte pas qu'on me dise, qu'on me donne un ordre. J'en donne pas. Je suis autoritaire avec personne, mais j'aime pas qu'on le soit avec moi. D'accord. Donc, effectivement, mais en même temps, je l'ai pas fait. Mmh. Voilà.
Ouais.
Donc,
voilà. Et dans la mise en scène, quand Jacques Weber vous dit fais plutôt ceci, fais plutôt ceci.
Je fais tout ce qu'on me dit.
Ah, là oui.
Quand c'est Jacques Weber, ça passe.
Voilà. Évidemment. Ce principe d'imaginer qu'à la télévision française, aujourd'hui, c'est adapté d'un format britannique, on envoie des candidats dans la nature, ils doivent absolument disparaître. Et puis il y a des gens, c'est une forme de chasse à l'homme, quoi.
Rappelons que Xavier Dupont de Ligonnès est hors concours.
Je crois qu'il va faire une apparition dans le format.
C'est certain. Est-ce que vous trouvez ça assez intéressant ou complètement grotesque ? Quel regard vous portez sur ces choses-là, vous ?
Je ne savais pas qu'il allait avoir ça. La télé-réalité, je trouve ça assez... Je sais pas, c'est rigolo.
Mais on est quand même dans un truc où c'est un métier qui est mis en avant, c'est-à-dire de chercher. C'est pas les 10 mêmes qu'on met dans une.
C'est pas les enquêteurs qui ont l'air d'être mis en personnages principaux. C'est la figure du fugitif qui a toujours marché dans le cinoche, avec des films comme Le Fugitif ou.
Non, parce qu'il y avait eu à l'époque dans le genre métier, il y avait eu une classe du cours Florent qui était filmée, et donc c'était un genre de début de télé-réalité parce qu'on les voyait, mais on les voyait travailler les grands textes. Donc c'était amusant un peu ça.
Et bien la télé-réalité, il y avait comment ça s'appelait, Striptease. C'était un peu de la télé-réalité, ça c'était extraordinaire, je trouve.
Il y avait une prise de.
Il y avait peut-être moins de médiocrité que dans les programmes qu'on voit.
Il gagne quoi à la fin ? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose à gagner.
Alors,
piège jaloux.
Bonne question. Non, on espère qu'il gagne un truc parce que comme il doit prendre congé,
une nuit dans l'hôtel avec. Aussi inventé un jeu comme ça qui s'appelle Frontex, non ?
Non mais c'est vrai, les règles sont simples. En fait, les candidats partent du sud pour aller vers le nord et puis ils affrontent le froid, les montagnes,
Ciotti,
la neige.
Eric Ciotti.
Et quand ils arrivent, il y en a qui perdent et puis ceux qui arrivent, bah, ils gagnent rien.
C'est vrai. C'est vrai, regarde ce
Et là, il le sait, le gars, quand il a gagné. Parce que c'est, le truc, c'est que après 21 jours, il dit j'étais là.
Le jeu commence demain ou ce soir, je sais plus. Donc, si vous deviez disparaître pendant 21 jours sans laisser de traces, comment vous feriez?
Il irait sur Europe 1.
Je le dis pas parce qu'on sait jamais. Non, mais c'est très compliqué de disparaître aujourd'hui. C'est impossible.
Ne fût-ce que par les paiements,
Et même les téléphones. Je pense que c'est très dur. Ouais. Et je pense que même si on y arrive, au bout d'un moment, ça devient suspect. C'est-à-dire que si quelqu'un, on n'a plus de se connecter plus au téléphone ou machin, tout ça, ça va énerver des gens, puis ils vont vouloir les retrouver.
Ouais, c'est vrai. Alors, il y en a un qui a déjà gagné aussi, c'est Harlem Désir, par exemple, qui est déjà vainqueur aussi, parce qu'on n'a pas de.
Depuis plus de 21
jours. Jean-Marc Ayrault, on n'a pas de.
Je crois qu'il est dans la forêt de Brocéliande.
Je ne sais pas. Donc
sortez, si vous nous écoutez, sortez
des buissons.
Grégory Gadebois est avec nous, il est 17h47 et c'est l'heure de passer la parole à celui que tout France Inter surnomme Ragnout Elkrieff. C'est vous, Pablo Mira.
Pablo... On tente.
Ouais, moi j'aime beaucoup. Pablo, vous revenez aujourd'hui sur le rapport d'Aurore Berger sur réforme de l'audiovisuel public.
Oui Charline, et avec ce rapport, Aurore Berger, députée de La République En Marche, propose des solutions pour rachidadatiser l'audiovisuel public, c'est-à-dire tout casser puis reconstruire pour rendre son visage méconnaissable. Car l'urgence est là, Charline, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, l'audiovisuel public français est une honte. Alors pour rappel, Guillaume, la honte, c'est ce sentiment qu'aurait dû ressentir le producteur qui vous a dit un jour « Eh, il y a un album de rock, ça te dirait ?» Moi, ce qui me fait honte, je vais vous dire très sérieusement, c'est par exemple le problème criant du manque de diversité dans les médias. Moi, j'ai beau chercher, mais des gens comme moi, par exemple, sont très peu représentés sur le service public, France Télévisions, par exemple. Pourtant, c'est pas très compliqué de trouver en France quelqu'un qui ne bosse pas ses sujets et qui déteste l'islam. D'ailleurs, si CNews pouvait nous en laisser quelques-uns, s'il vous plaît. Ensuite, autre élément, moi, qui me saute aux yeux et qui m'agace, c'est le manque de cohérence sur le service public. On est perdu, on ne comprend plus rien, Charline. France 2, France 3, France 4, France 5. Non, comme sur le coup d'un vendeur du sentier, il y a beaucoup trop de chaînes. Et ne parlons même pas d'Arte. Elle a mis du temps, celle-ci.
Oui,
c'est les métaphores.
Antisémite.
Me lancez.
Bien entendu, il manquait plus que ça.
Et je ne vous parle pas plus sérieusement d'Arte. Alors oui, Arte, oui, c'est bien, c'est un télo, tout ça, c'est sympathique. Mais les documentaires sur les vertus des vitamines pendant la guerre de Corée, le tout sous-titré en danois sur muet, ça va bien deux minutes. Et pendant ce temps-là, qui c'est qui raque pour des programmes aussi mauvais? Eh bien, c'est nous, donc pas le choix. L'audiovisuel public doit se réformer en commençant par se serrer la ceinture. Oui, il doit se serrer la ceinture, comme Gérard Larcher. Non, vous avez cru? Oui. Vous avez cru que je referais une vanne avec Gérard Larcher et son point? Vous croyez que je cède à la facilité?
Non.
Hein.
Non.
Vous pensez que je ne pouvais pas me retenir, comme Gérard Larcher devant un saladier de Saint-Doux? Pour qui me prenez-vous? Allez, l'audiovisuel doit se serrer la ceinture et surtout réapprendre à gagner de l'argent. Et ça passe par deux choses qu'Aurore Berger a très bien souligné dans son rapport. Un, tester la publicité segmentée, ciblée et géolocalisée pendant 18 mois. Ça, c'est une super idée. Moi, je veux pouvoir, quand je suis dans les Alpes, qu'on me propose une pub pour des skis, ou quand je vais dans l'Oise, qu'on me propose une pub pour un visage normal. Non, je les taquine, évidemment, j'embrasse tous les gens de l'Oise qui nous écoutent avec leurs oreilles situées sous leur nez. Et petit 2, Alex, pour gagner de l'argent. Ou pour en perdre moins, moi j'ai dit qu'il faut lancer une grande campagne de sensibilisation sur le piratage qui fait perdre, il faut le dire, des millions d'euros aux producteurs et aux chaînes. Alors ça veut dire aller voir les plus jeunes dès le collège et leur dire, écoute, si tu pirates une œuvre que tu aimes bien, eh bien l'artiste va toucher moins d'argent et il risque de se retrouver à la rue. Alors s'il te plaît, pirate les Chevaliers du Fiel. Pirate-les massivement. Alors attention, je vois les gauchistes venir. Oui, mais l'accès à la culture, voilà, tout ça. Oui, Alex, vous connaissez le refrain, vous aussi. Je suis d'accord avec vous pour ne pas tomber non plus dans le tout répressif bêtement. Il est évident que je ne mets pas sur le même plan le fait de pirater un film, qui est un vol, et le fait de pirater un film de Fabien Antoniente, qui est un appel à l'aide. Donc, il y a une question d'argent, mais il y a aussi une question d'image, Charline, parce que il faut dire que les Français regardent, il faut que les Français regardent à nouveau le service public, comme Alex regarde la fiche de paye de Nagui avec gourmandise. Car c'est triste, mais les Français ont déserté leur téléviseur. Prenez l'émission Slam, tiens, Slam sur France 3, présentée par Cyril Ferraud. Tous les jours, elle perd des centaines de téléspectateurs.
Bon, parce qu'il meurt de vieillesse, mais quand même. Non, malheureusement, notre audiovisuel public, c'est un peu comme l'orthophoniste de Charline. Hein? Quoi qu'il fasse, ses efforts ne payent pas. Et qu'est-ce qu'il y a, Charline? Hein? Je vois dans vos yeux que vous voulez me dire quelque chose, mais que vous n'osez pas.
Bah, je sais pas, essayez de deviner.
Je vais essayer. Ta gueule, T-A-G-U-E-U-L-E. C'était bien ça, c'était bien ça. Eh bien, Charline, je vais réaliser votre souhait, puisque pour conclure, si on veut concurrencer Netflix, Amazon, YouTube et Google, pas d'autre choix que de donner plus d'argent à l'audiovisuel public, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à chaque fois qu'un Français ne paye pas sa redevance, c'est une série avec Samuel Le Bihan qui part en développement. Allez, salut.
Merci Pablo Mira pour cette chronique essentielle, car le service public doit perdurer, sinon que regarderaient les chômeurs à la télé à part Motus? C'est vraiment très
important. Berger,
on
sur le service public, on voit que vous ne savez même pas où il est Motus.
Oui, c'est vrai.
Bien sûr.
Bah, c'est le service public.
Que regarderait à part Motus?
Ouais.
On va vous laisser.
J'ai pas compris.
Motus, c'est sur France 2. C'est Thierry Beccaro.
C'est Thierry Beccaro, bien entendu.
Éternel. Vous pourrez me coller là-dessus, vous rigolez ou quoi?
Qu'on salue.
Grégory Gadebois est avec nous. Quand deux personnes se mettent en couple, il paraît qu'ils perdent en moyenne deux amis proches. Le journal La Croix consacre un dossier à la relation amicale quand on est casé. Intégrer les amis de son conjoint ou rejoindre ses amis comme espace d'indépendance. Ce sont des questions aussi que posent la littérature, le théâtre et le cinéma.
Vous êtes marié?
Oui, enfin non. C'est-à-dire que ma femme est partie.
Ah bon?
Avec un ami à moi.
Ça arrive, ces choses-là.
Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Un soir, je l'ai amené à la maison et il lui a plu. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière.
Thierry Lhermitte et Jacques Villeray dans les dîners de contes, Francis Weber, vous étiez pété de rire en entendant Jacques Villeray, Grégory Gadebois.
Oui.
C'est vrai qu'il est fabuleux.
Oui.
Ça fait partie des gens qui vous font beaucoup rire au cinéma.
Ouais. Ah oui, 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 oui. À chaque fois que je revois le dîner de contes, je me dis, mais à chaque fois ça me surprend, je me dis, mais quand même.
Et on n'ose pas vous dire que peut-être vous feriez un excellent
Thierry Lhermitte.
Ouais. Non mais c'est vrai, c'est un rôle super à jouer.
Ah ouais, ben bah non, c'est genre, mais non, c'est fait.
Non, ouais, je pense que. Et non, c'est
pour ce, ça ce sujet.
Insultant, là.
Mais c'est je vais demander pourquoi vous m'avez.
Oui, non, mais
non, c'est pas ça.
Voici des allumettes.
Ce sujet de traité par La Croix, qui est très détaillé, c'est un dossier hein, sur l'amitié quand on est en couple, etc. Alex Vizorek, dans la pièce, est-ce que c'est effleuré finalement parce que c'est le couple.
J'ai bien aimé la partie où elle lui explique. En fait, c'est pas tant à lui qu'elle en voulait parce qu'elle passait ses journées à être seule, à se chercher elle-même. Et puis, vous avez cette phrase, parce que vous l'aviez vue, justement, errer, et vous lui dites « j'étais jaloux de vous-même ». Et je trouve que ça disait à peu près, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'avait plus trop d'amis, parce que ses seuls amis, c'était les barman des bars et des hôtels normands.
Ouais, et elle... Mais en fait, moi, ce que j'aimais, c'est qu'elle s'accommode bien d'être... et que lui, non. Il n'y a pas de... Il a pas de comment dire, je sais plus.
On trouvera après.
C'est-à-dire que elle a accumulé et puis à un moment elle a dit je m'en vais et lui il a vu ça mais il a pas voulu l'admettre. J'ai
ça paraît abstrait là tout de suite comme ça. Je pense qu'il faut aller voir Grégory Gadebois au théâtre.
Mais en fait c'est vrai.
Ça donne envie d'aller au théâtre de la Place Saint-Martin dans
le
texte.
Prend du jus de fruit et
Et lui, il mange une pomme.
Grégory Gadebois.
Vous confondez avec Plus belle la vie depuis tout à l'heure.
Je vous renvoie au dossier de La Croix si le sujet vous intéresse. Mais on a un sketch à vous proposer, Grégory.
Ah, en fin d'émission, on propose un rôle à l'invité.
Ah oui. Et que moi, je vais. Ah oui.
On voudrait jouer avec vous.
Et pas n'importe lequel. Vous avez le casting. Hop. Vous êtes le président de la République. Emmanuel Macron.
Moi, je fais ce qui est en orange.
C'est exactement. Ça. Et Guillaume Meurice et Édouard Philippe, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Le remaniement. On se rend sur place. Il y aura deux ministres qui vont débarquer.
Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour Edouard. Alors j'attends vos propositions pour constituer le nouveau gouvernement.
Monsieur le Président, j'y arrive pas, enfin, c'est compliqué.
Bon, faisons les choses dans l'ordre. Mmh. Alors il faut remplacer Françoise Nyssen et Jacques Mézard.
Attendez, Jacques qui?
Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires.
Ah ouais, non, alors lui j'arrive vraiment pas à imprimer.
Les Français non plus, rassurez-vous.
Bon, et sinon vous voulez pas aussi un nouveau ministre de l'Intérieur?
Pourquoi ça vous plaît pas ce double poste? Vous savez, en France, il y a beaucoup de chômage.
Ah oui, ouais, donc deux emplois, c'est mieux. Oui.
J'ai un ami qui cumulait 6 emplois différents.
Oui, Alexandre Benalla, oui, je sais.
Ah, vous connaissez?
Non, oui,
vous voyez, vous êtes un bon ministre des Affaires intérieures. Gérard Collomb ne le connaissait pas.
Toc.
Oui, entrez, Madame Nissen.
Vous vouliez me voir ?
Oui, alors écoute, Françoise...
Je me sens de plus en plus à l'aise dans mon job. Voilà. Hier, j'ai même regardé Antenne 2. Hein.
Voilà, c'est ça un peu le problème dont vous voulez parler. Si les Français commencent à s'en rendre compte...
Qu'Antenne 2, c'est mieux qu'FR 3 ?
Non, voilà, vous n'y connaissez rien, en fait, à l'audiovisuel et à la culture.
Mais c'est pas vrai, je suis tout à fait calée en architecture.
Ah bon ?
La mezzanine que j'ai fait ajouter au locaux d'Actes Sud, c'est moi qui l'avais dessinée.
Non mais elle le fait exprès.
Non mais merci Françoise, vous pouvez y aller là.
Bon bah trouvez-moi quelqu'un pour la remplacer.
Mais non, il y a déjà 5 qui ont refusé.
Bah appelez Stéphane Bern, il fera peut-être un loto culturel.
Très bien monsieur le président.
Toc toc toc.
Ah, monsieur Castaner, oui rentrez.
Oui alors moi je vous préviens, si vous me donnez pas l'intérieur je me casse.
Non Christophe, on te donnera pas l'intérieur.
Ah mince, j'avais pas prévu un refus. En tout cas, si j'ai pas l'économie, vous me verrez plus.
Ah non, tu n'auras pas l'économie.
Bon, bah je peux garder mon poste alors ?
Même ça, on va discuter.
Ah, d'accord, vous voulez un café, un jus de fruits, un massage ?
Non merci monsieur Castaner, vous pouvez disposer. Hein, vous pouvez y aller, hein.
Et pour remplacer Jacques Mézard, vous avez pensé à Guy ?
Jacques qui ? Remplacer qui ?
Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires.
Ah, mais j'imprime pas du tout là, mais Mézard, c'est avec un Z ou un S ?
Avec un Z et un D à la fin.
Ah oui d'accord, j'avais écrit un T moi.
Ah, vous êtes fabuleux, Grégory Gadebois, président. Magnifique.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous jouez la Musica deuxième de Marguerite Duras avec Stéphane Gaillard dans une mise en scène de Jacques Weber au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Et l'émission vous semblera beaucoup plus claire quand vous serez allé le voir. Parce que...
Et Alex Vizorek.
C'est super.
Alex Vizorek vous conseille d'aller voir la pièce, tout à fait. Des représentations en alternance, soyez vigilants. Et puis, sans doute après, dans toute la France, chers auditeurs, on va se retrouver demain avec le chanteur Alexis HK. Et on va laisser le mot de la fin à Venantino Venantini.
Oh.
Le dernier tonton flingueur qui nous a offert un grand, grand moment de radio, ici même, en éparpillant l'émission façon
puzzle.
Ciao, tonton.
C'est formidable, merci beaucoup. Vous m'avez fait rougir, je suis très ému. Oui. On rigole, on blague, on déconne, mais parce que, comme une famille, vous êtes tous mes fils.
Oh.
Continuez comme ça.
Merci.
Aimez-vous, haïssez-vous, et oui. baisez, parce oui. qu'on bat tout.